Vous écoutez, on lit pour vous.
Des années vulnérables, privées de prestations, selon un syndicat fédéral. Un texte d'Estelle Côté-Sroka, paru le 24 juin 2025 sur Ici, Ottawa-Gatineau. Des aînés se sont retrouvés privés de prestations de sécurité de la vieillesse depuis l'entrée en vigueur du nouveau logiciel QRAM à la mi-mars, selon l'Alliance de la fonction publique du Canada, AFPC. Un rapport du Syndicat de l'emploi et de l'immigration du Canada, affilié à l'AFPC, dont Radio-Canada a obtenu une copie, détaille de nombreux problèmes générés par le logiciel. Des aînés se présentent dans les bureaux de Service Canada après avoir reçu des lettres contradictoires ou sans avoir reçu leur paiement du supplément de revenu garanti, relatent des agents de service aux citoyens. On y lit également que certains découvrent qu'ils sont en situation de trop payer. Un fonctionnaire qui travaille dans un quartier défavorisé du Québec souligne que sa clientèle est composée de personnes âgées en situation de précarité, de personnes vivant avec des troubles de santé mentale, d'itinérance ou de dépendance. Ces aînés n'ont souvent ni les moyens ni les ressources pour comprendre ou corriger leur situation, dit-il. Parmi les erreurs graves rapportées, on cite des suspensions injustifiées de prestations, des paiements indus de plus de 10 000 $ à certains clients, des blocages liés aux retenues d'impôts volontaires au Québec. Source, rapport QRAM, préparé par le Syndicat de l'emploi et de l'immigration du Canada. Le logiciel génère parfois des trop-payés anticipés sur plusieurs années, jusqu'en 2035, sans tenir compte de l'admissibilité future des clients, ce qui soulève des inquiétudes quant à la logique du système, selon le rapport syndical. Les fonctionnaires doivent effectuer un grand nombre de paiements manuels, notamment pour des comptes suspendus. Cela se poursuit en raison de défaillances dans l'automatisation des versements. Ce document a été partagé avec le gouvernement fédéral plus tôt ce mois-ci. Le ministère de l'Emploi et du Développement social n'était pas en mesure de répondre aux questions de Radio-Canada avant deux jours. Ottawa voulait passer sous silence l'arrivée d'un nouveau logiciel. Le gouvernement fédéral a d'ailleurs demandé aux employés de Service Canada de ne pas imputer les retards ou les erreurs de paiement au nouveau logiciel informatique QRAM, dénonce la FPC. Les agents qui traitent les dossiers n'ont pas le droit d'attribuer leurs problèmes à un bug de logiciel, ni de mettre le problème sur le dos du logiciel QRAM, même s'ils savent très bien que c'est le cas, affirme en entrevue Sébastien Paquette, le vice-président exécutif pour le Québec de l'AFPC. Selon une note gouvernementale que Radio-Canada a pu consulter, les fonctionnaires ont aussi eu la directive, en avril, de ne pas mentionner qu'un nouveau programme assure la gestion des prestations depuis la mi-mars. Le député du nouveau Parti démocratique du Canada, Alexandre Boulris, a qualifié la situation de troublante. C'est assez troublant d'être dans une situation où on attend que des personnes aînées vulnérables se plaignent pour savoir qu'il y a des problèmes, parce que peut-être qu'ils ne se rendront pas compte qu'il y a un problème dans le versement de leur paiement, s'est-il exclamé avec frustration. Inquiétude chez les aînés. la Fédération des aînés et aînés francophones du Canada ne cache pas ses préoccupations. On est très inquiet de voir qu'il peut y avoir des paiements qui n'ont pas été effectués ou qu'il y a des erreurs, affirme son directeur général, Jean-Luc Racine. On a vu ce qu'il s'est passé avec Phoenix. On a juste à regarder la télé récemment avec la SAAC au Québec, où on a implanté des nouveaux programmes, et quand on ne fait pas preuve de transparence, on voit que ça ne tourne pas tellement bien, ajoute-t-il. Selon M. Racine, le gouvernement doit faire preuve d'une meilleure transparence pour que les aînés soient informés de la situation et puissent détecter les erreurs. Tout va bien selon Ottawa. L'attaché de presse de la ministre de l'Emploi et des Familles, Patty Ajdou, Jennifer Kozelge, se veut pourtant rassurante. Pour être clair, les clients de la sécurité de la vieillesse n'ont constaté aucun changement dans la manière dont leurs paiements sont versés, assure-t-elle. Les paiements ont été effectués avec exactitude et à temps en avril et en mai, ajoute-t-elle. Le cabinet de la ministre souligne que l'implantation du système QRAM constitue la plus grande initiative de transformation numérique jamais entreprise par le gouvernement. Il s'agit d'une plateforme moderne qui respecte toutes les normes de services établies, offre meilleur accès et de meilleurs services aux Canadiens et peut s'adapter à des changements de politique, à l'ajout de prestations et à d'autres modifications nécessaires, selon Mme Kozelge. Discours déconnecté. Le rapport du Syndicat de l'emploi et de l'immigration du Canada souligne que les fonctionnaires fédéraux sont nombreux à vivre une détresse psychologique face à l'ampleur des problèmes liés à QRAM et de l'apprentissage par essai-erreur qui augmente les risques. Le rapport syndical fait état d'un climat où les messages institutionnels sont perçus comme déconnectés, voire irréalistes, car la gestion présente QRAM comme une réussite. La réalité vécue est tout autre. Surcharge, confusion, inefficacité, stipule un rapport sur QRAM du Syndicat de l'emploi et de l'immigration du Canada. Le problème commence de plus en plus à ressembler au fiasco du système de paye Phoenix. Note avec désenchantement M. Paquette. Le syndicat déplore que les fonctionnaires fédéraux qui assurent le service à la clientèle aient toujours un objectif de durée d'appel. Ceux-ci doivent durer entre 750 et 800 secondes. Certains agents pourraient raccrocher prématurément pour tenter de respecter ses cibles, ce qui nuit à la qualité du service. Plusieurs erreurs ont d'ailleurs été détectées grâce à des signalements de clients et de fonctionnaires, selon le rapport. Ces derniers maintiennent que leur formation est insuffisante. C'était des aînés vulnérables privés de prestations, selon un syndicat fédéral. Un texte d'Estelle Côté-Stroka, paru le 24 juin 2025 sur Ici, Ottawa-Gatineau.
La réforme du régime forestier fragilisera la forêt, préviennent des experts. Un texte d'Alexandre Shields, paru le 2 juin 2025 dans Le Devoir. Le projet caquiste de réforme de l'exploitation forestière risque de fragiliser nos forêts face aux impacts de la crise climatique, préviennent des experts qui insistent sur l'importance de préserver un maximum d'écosystèmes naturels afin qu'ils puissent mieux s'y adapter. Leur message ne sera toutefois pas entendu dans le cadre des consultations particulières en cours sur le projet de loi, puisqu'aucun scientifique indépendant n'a été invité. Avec son projet de réforme du régime forestier, la ministre des Ressources naturelles et des forêts laisse entendre que sa stratégie d'adaptation de la gestion et de l'aménagement des forêts au changement climatique devrait essentiellement passer par une intensification de la sylviculture pour adapter la forêt aux conditions futures, en laissant de côté le rôle que peut jouer la forêt naturelle dans cette adaptation. Ce n'est pourtant pas ce que la science nous enseigne, écrivent quatre experts de la forêt dans une lettre publiée lundi le 2 juin 2025 dans Le Devoir. Quand on entend la ministre, ça nous donne l'impression que sa stratégie d'adaptation n'est pas la forêt naturelle, c'est l'aménagement forestier intensif. Leur stratégie consiste essentiellement à dire qu'avec la sylviculture intensive, on va changer la forêt et elle sera mieux adaptée au changement climatique. C'est une chimère, laisse tomber l'ingénieur forestier Jean-Pierre Jeté, co-signataire de cette lettre. On semble dire que la forêt naturelle ne pourra pas s'adapter, alors que c'est la meilleure garantie, même s'il n'y a rien de parfait, ajoute-t-il, en rappelant que les dérèglements climatiques vont frapper de plus en plus fort dans les prochaines années. La protection et la restauration des écosystèmes naturels que sont les forêts font d'ailleurs partie des solutions essentielles pour lutter contre le réchauffement et s'y adapter, selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Adaptation. Avec le projet de loi 97 visant principalement à moderniser le régime forestier, le gouvernement Legault compte mettre en œuvre un modèle de gestion du territoire forestier public divisé en trois types de zones. Une portion du territoire serait ainsi cédée à l'industrie forestière afin de créer des zones d'aménagement forestier prioritaires. Cette portion pourrait représenter 135 000 km² de territoire québécois. Une autre portion dite de « multi-usage » comprendrait des coupes forestières, mais aussi d'autres utilisations du territoire, tandis qu'une dernière portion serait consacrée aux efforts de conservation. Selon Québec, ce modèle permettra de renforcer la résilience des forêts au changement climatique tout en contribuant à l'accroissement de leur productivité et ainsi de maintenir la biodiversité et la viabilité des écosystèmes. La ministre des Ressources naturelles et des forêts, Maïté Blanchette-Vézina, a d'ailleurs insisté à plusieurs reprises sur la nécessité d'adapter nos forêts au changement climatique afin de les rendre plus productives et résilientes. Lors des consultations particulières, elle a aussi souligné jeudi que l'adaptation des forêts est au cœur de plusieurs articles du projet de loi et que, pour améliorer la résilience des forêts, il faut changer nos façons de faire. Or, le projet de loi caquiste ne va pas dans le sens d'une meilleure adaptation, estime Pierre Drapeau, co-signataire de la lettre publiée dans Le Devoir, titulaire à l'UQAM de la chaire de recherche UQAT-UQAM en aménagement forestier durable qui a dirigé le Centre d'études de la forêt de 2010 à 2022. Selon lui, le gouvernement devrait d'abord accroître les mesures de protection des mécanismes naturels de résilience des forêts. Donc, préserver un maximum de forêts matures. Les données scientifiques démontrent d'ailleurs que ce sont ces écosystèmes forestiers qui sont les plus à même de résister aux bouleversements climatiques et à leurs conséquences, comme les feux. Au 18e et au 19e siècle, nous avons connu au Québec beaucoup plus de feux qu'au 20e siècle. Pourtant, la forêt boréale a survécu. Pourquoi? Parce que les mécanismes de résilience existent naturellement et qu'ils permettent à la forêt d'être résiliente, illustre Jean-Pierre Jeté. À titre de comparaison, ajoute-t-il, les incendies records de 2023 ont provoqué des échecs de régénération, sur une superficie qu'il évalue à 350 000 hectares. Ces échecs se produisent quand la forêt est jeune, et nous avons beaucoup rajeuni la forêt dans les 30 dernières années dans ces régions. Nous avons donc affaibli le processus naturel de résilience, explique-t-il. Cela signifie que sans une intervention humaine qui pourrait coûter des centaines de millions de dollars et nécessiter plusieurs années de travaux, ces forêts peineront à se régénérer. Absence aux consultations. Si ces experts ont décidé de prendre la parole publiquement, comme l'ont fait d'autres scientifiques dans le contexte du projet de réforme du régime forestier, c'est qu'ils sentent que leur expertise n'est pas suffisamment prise en compte par le gouvernement caquiste. Il n'y a aucun expert de la communauté scientifique aux consultations particulières, déplore Pierre Drapeau, en rappelant que le Québec compte de nombreux spécialistes des enjeux forestiers et notamment des effets de la crise climatique sur ces vastes écosystèmes qui occupent une part importante du territoire. Pourquoi ne pas avoir invité d'experts indépendants de la forêt, par exemple issus du milieu universitaire? Les groupes invités en consultation particulière font l'objet de négociations entre les leaders parlementaires des quatre groupes parlementaires, a répondu le cabinet de la ministre Maïté Blanchette-Vézina. Le Parti libéral du Québec indique pour sa part qu'il souhaitait inviter le Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté de l'UQAM. Mais comme la liste finale relève de la prérogative du gouvernement, celui-ci a tranché et n'a pas, par exemple, retenu ce groupe. Québec solidaire dit aussi avoir voulu inviter des experts, mais pour plusieurs raisons, priorisation par la CAQ, refus des experts eux-mêmes, il n'y en a malheureusement pas dans la liste finale. Le Parti québécois affirme lui aussi qu'il n'y avait aucune opposition de sa part à l'idée d'inviter des scientifiques aux consultations. Préserver la forêt est essentiel pour l'emblématique orignale, affirme la CEPAC. Dans le cadre des consultations particulières sur la réforme du régime forestier, le président directeur général de la Société des établissements de plein air du Québec, CEPAC, Martin Soucy, a insisté sur l'importance de préserver des forêts matures dans les réserves fauniques afin de protéger l'orignal qu'il a présenté comme une espèce emblématique. Est-ce que le maintien d'un habitat propice pour l'orignal et pour d'autres espèces qui fréquentent les mêmes habitats est compatible avec les zones d'aménagement prioritaire, donc sans contrainte pour la foresterie? Il doit y avoir un équilibre dans la triade qui prend en considération le mandat de la CEPAC d'offrir à la population québécoise des activités de pêche, de chasse et de récréotourisme dans les réserves fauniques de son réseau. La CEPAC estime qu'il est possible d'en arriver à une planification adéquate de la foresterie qui permet le maintien d'un habitat faunique de qualité pour l'orignal sur le territoire québécois, a répondu la CEPAC. C'était « La réforme du régime forestier fragilisera la forêt », préviennent des experts. Un texte d'Alexandre Shields, paru le 2 juin 2025 dans Le Devoir.
Nos mocassins, un texte d'Isabelle Picard, paru le 20 juin 2025 dans La Presse. Le 21 juin, le Canada célèbre la Journée nationale des peuples autochtones. Cette date, choisie pour coïncider avec le solstice d'été, honore les Premières Nations, les Inuits et les Métis. C'est un moment de renouveau, de célébration, tantôt spirituelle, tantôt artistique, qui s'inscrit au sein du mois national de l'histoire autochtone. Pour moi, c'est le moment de faire le bilan de l'année autochtone. En 2025, cependant, j'ai eu envie de donner la parole à d'autres Autochtones dans un grand appel à tous, question d'exposer d'autres points de vue que le mien. Les réponses à mon appel ont été nombreuses et variées, tant dans le contenu que dans la forme. Une constante, pourtant, ce désir d'être soi-même dans tout ce que cela veut dire et implique. C'est drôle quand on y pense. Tous les messages que j'ai reçus avaient un dénominateur commun. Être soi-même. Une chose qui peut paraître si simple aux yeux de plusieurs. Comme une quête que l'on nommait enfin. Comme si on se permettait de rêver, de l'affirmer. Juste ça. Un acquis, une évidence probablement pour celui qui lit ces mots. Pourtant, Audrey Lise Roch Hervieux, une Innue de Pessamit, m'écrit ceci. En tant que femme Innue, je sens qu'on est de plus en plus capable de se faire entendre à notre manière, que ce soit à travers nos actions, nos mots. On prend notre place de plus en plus sans avoir à s'excuser d'exister, même si ça demande encore du courage. Quand j'ai pris la parole devant le PDG d'Hydro-Québec récemment concernant nos rivières et le Nitassinan, ce n'était pas prévu. Je savais pourtant que si je ne me levais pas, personne n'allait le faire à ma place. Il y a des consultations, des belles paroles, mais dans les faits, il faut encore se battre pour être pris au sérieux. On ne peut plus se permettre de rester en arrière. Il faut prendre sa place et s'affirmer, même quand c'est inconfortable. S'affirmer. Par la parole, par le geste, par des mots sur du papier. Être qui nous sommes. Renée Siwi-Labelle, Wendat, rêve d'un événement planétaire où toutes les nations autochtones se retrouveraient. Celles de l'Afrique, de l'Océanie, des Amériques, de partout. Un lieu, un moment où nous serions nous-mêmes. Nos valeurs, notre vision circulaire et holistique du monde. Un grand mouvement durable, loin des stéréotypes coloniaux habituels. Un lieu solidaire, versé vers les 7 prochaines générations et porté par le territoire, la tradition. Une grande bouffée d'air frais. Un peu de force pour mieux s'affirmer, mieux avancer. En regardant l'actualité autochtone ces temps-ci, je me questionne beaucoup sur cette question d'affirmation. Une simple action à laquelle nous avons pourtant, comme autochtones, été soustraits pendant tant de temps. Il était interdit d'embaucher un avocat, de s'organiser ou d'amasser des fonds pour se défendre pendant tant d'années sous la loi sur les Indiens. Ignorer, nier, diriger, obliger, manipuler, ridiculiser même. Dans ce temps-là, l'affirmation du soi n'est pas facile. Je n'emploie pas souvent les mots de cette énumération tous à la fois, parce qu'ainsi mis bout à bout, ils nous confrontent à l'histoire, qu'on manque souvent de contexte pour bien les comprendre. Parce que toute l'histoire n'a pas été racontée avec justesse et avec justice. Si j'accuse quelqu'un ici, j'accuse l'histoire. C'est complexe également, l'histoire. Ces mots, ils expliquent cependant pourquoi c'est encore difficile pour plusieurs d'entre nous de prendre la parole, d'être qui nous sommes. Pourquoi ça demande du courage d'être, un courage que je reconnais chaque fois. Il y a quelques semaines, je soupais avec des amis à Havre-Saint-Pierre. Dans le petit groupe, un aîné, le dernier de la communauté des Kwanichit a joué du tambour traditionnel, le Teuhaikan. Il est magnifique. Il a tous des aînés que j'ai rencontrés, tout dans les yeux. Je lui demande s'il transmet son savoir aux plus jeunes. Il se contente de sourire. Il ne parle pas beaucoup français. Jean-Charles Pietachaud, le chef des Kwanchit depuis 33 ans, me dit qu'il ne peut pas le faire parce que pour porter un tambour, il faut avoir rêvé 3 fois qu'on en jouait. C'est pareil chez plusieurs nations autochtones. Or, à Ekwanchit, personne n'a rêvé depuis un bon moment. Je me dis que les Innus de cette communauté auraient pu vouloir transmettre les enseignements quand même, pour éviter de les perdre. En les ouvrant aux femmes, par exemple, puisque le tambour est traditionnellement réservé aux hommes. Ils y ont pensé, mais ont décidé que ça demeurerait ainsi. Certaines femmes ont pourtant pris le tambour quand même. Autrement, l'ethnologue en moi y voit tellement de choses. Le respect des traditions, l'affirmation, le désir de garder le son du tambour au sein de la communauté, une quête, des détours, le futur. Derrière une simple question posée à un aîné se trouvent toutes ces réponses. Être soi, être autochtone, c'est souvent porter tout ça, je pense. Tous ces questionnements invisibles, mais bien présents. Alors cette question d'affirmation du soi ne se fait jamais que pour soi. Et quand d'autres autochtones m'écrivent qu'il faut absolument que je mentionne le recul des gouvernements face aux initiatives autochtones, comme la stratégie de réconciliation et les apprentissages culturels, le projet de loi 97 sur la modernisation du régime forestier à Québec, la faible avancée de mise en œuvre des récentes commissions d'enquête, comme l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, par exemple, c'est peut-être parce que d'être reconnu par l'autre, entendu, de marcher ensemble dans un même sentier, c'est aussi nous aider à être qui nous sommes vraiment. La vraie rencontre, la grande réconciliation tant annoncée, elle ne pourra que se faire ainsi, en marchant un peu aussi dans nos mocassins. C'était « Nos mocassins », un texte d'Isabelle Picard, paru le 20 juin 2025 dans la presse.